On a besoin de vous, de nous, c'est ce qu'on va dire avec Ève, pour construire cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. On a besoin de traces. Donc, on va vous raconter cette histoire et puis on va vous mettre surtout à contribution. Et bon voyage avec nous.
Isabelle, tu ne t'es pas présentée. Isabelle.
Alors moi, Isabelle Santis, donc, je suis bénévole à Mémoire en Chantier. Depuis 20 ans, je milite pour la reconnaissance de la déportation pour homosexualité. Et j'ai fait des études en histoire et puis voilà.
Voilà. Merci Isabelle.
Et toi, tu t'es pas présentée, Ève.
Alors, Ève Pascal, retraitée très occupée. Quel bonheur d'avoir le temps de faire enfin les recherches que je désirais de faire depuis longtemps. Je fais partie de plusieurs associations, Les Bien-Nés à Nancy, La Lune à Strasbourg, la CLF et Les Oubliés de la Mémoire. Il y a des silences que je trouve d'une grande violence au sujet des lesbiennes, victimes au même titre que toutes les victimes de cette période de barbarie extrême. Je suis née en 1939. Et ce passé me bouleverse toujours. Je le porte dans mon cœur et il ne cesse de m'interroger. D'autant plus qu'après la guerre, j'ai vu les déportés revenir. J'ai vu les premières revues, j'ai entendu les adultes en parler. Et c'était vraiment quelque chose qui est imprimé en moi très fort. Ensuite, c'est la colère aussi. D'entendre toujours le rôle des femmes, ça, vous le savez aussi bien que moi, minimisé. Oui, les lesbiennes ont peut-être été déportées, mais enfin, c'est anecdotique, elles n'étaient pas nombreuses. Dans la résistance, oh oui, bon, enfin, etc., etc. Isabelle est en train de m'arroser.
Tu me fais mouiller, en fait.
Donc, je me suis dit, il faut que j'aille mettre mon nez un peu dans cette histoire-là. L'histoire n'est pas figée dans une seule vérité intangible. Elle est sans cesse à revisiter et à repenser. L'histoire des femmes est à réécrire, car elle est en très grande partie rédigée dans un esprit partisan et patriarcal. Si depuis quelques décennies des historiennes nous en donnent une lecture plus juste, le travail d'investigation qui concerne la place des femmes et en partie des lesbiennes est loin d'être terminé. Pour nos compagnes, pour que leurs souvenirs ne disparaissent pas, je demande à toute personne détentrice de renseignements concernant les lesbiennes dans l'armée, la résistance, et celles qui furent déportées de me les communiquer. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour enquêter dans les familles, chercher dans les archives, rencontrer des personnes possédant des documents et participer ainsi à ce travail de mémoire. En préambule, je me dois de préciser que toutes les victimes de la barbarie nazie sont à déplorer, quelles qu'elles soient. Espérons l'impossible, car c'est peut-être une bassesse que de mettre ses espoirs en lieu sûr. C'est Nathalie Clifford Barney qui disait cela. On m'oppose souvent lorsque je dis je continue à faire des recherches, il faut qu'on retrouve, toutes les archives n'ont pas été décryptées. On m'oppose une résistance, surtout de la part des déportés et qui tirent la couverture à eux. Je ne nie pas leur déportation, je sais leur souffrance, mais pourquoi ne pas parler de la nôtre, car elle est réelle. C'est la même chose en ce qui concerne les résistances. Alors je me suis dit quand même, pour expliquer ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé, moi je suis assez pour l'histoire sur la longue durée, donc je vais passer un peu rapidement sur la première partie de mon exposé. C'est le mouvement féministe et la construction de l'identité lesbienne. Tout n'a pas commencé dans les années 70. Dans les années 70, c'est la continuité de quelque chose qui a fermenté tout au long des années. J'ai donc commencé par la Troisième République, 1870-1914. Montaigne écrit « Les femmes ont raison de se rebeller contre les lois parce que nous les avons faites sans elles. Alors la Troisième République se caractérise par la constitution d'organisations féministes, réformistes, structurées et plus durables. Il est vrai qu'avant, il y a eu des grandes égéries, des écrivaines, des poétesses, des personnes, mais qui étaient quand même dans un milieu assez favorisé. Et il n'y avait pas une conscience collective comme celle que nous avons à l'heure actuelle, ni collective, ni politique surtout. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas d'association. Et cela s'est constitué petit à petit grâce, il faut bien le dire, c'est pas toujours... Ça va, oui. Grâce au réseau des féministes. Marie de Rheims et Léon Richier, bon, il y a encore des hommes bien sûr au début, fondent le 16 avril 1870 l'Association pour les droits des femmes, présidée quand même par Victor Hugo. Le premier groupe suffragiste est créé en 1876 par Aubertine Auclair, la première activiste à utiliser le mot féministe. Donc vous voyez que le mot féministe n'est pas très vieux, il date de cette année 1876. Marguerite Durand fonde le journal La Fronde, premier quotidien entièrement rédigé, imprimé et vendu par des femmes. Il disparaîtra en 1905. En 1884, on compte environ une soixantaine d'associations féminines, dont la plupart sont de gauche. Si quelques hommes, dont Jean Jaurès, sont favorables à leurs revendications, le droit de vote ne leur est toujours pas accordé. Une première manifestation pour le suffrage féminin a lieu le 3 mai 1908. Le 5 juillet 1914, Louise Saumonneau et un groupe de femmes socialistes organisent une grande manifestation. 6000 femmes y participent. Première affirmation de cette envergure dans la rue qui devient la première journée des femmes en France. Nous devons aussi beaucoup à l'Angleterre, aux mouvements féministes anglais qui sont extrêmement forts. En Angleterre, alors vous excuserez ma prononciation d'anglais, moi je prononce l'anglais comme une vache espagnole, c'est affreux. Enfin bon, j'espère que je ne vais pas faire. Millicent Fawcett fonde l'Union nationale pour le suffrage des femmes. National Union of Women's. Et en 1903, Emmeline Pankhurst fonde la Women's Social and Political Union, plus connue sous la dénomination de suffragettes. Alors c'est vrai que les suffragettes anglaises ont beaucoup inspiré les Françaises. Les suffragettes en la personne d'Emily Davinson, celle qu'elles considèrent comme leur premier martyr. Vous savez, c'est cette suffragette qui s'est jetée sous les sabots d'un cheval. Donc ces femmes étaient vraiment, je pourrais presque les comparer à l'heure actuelle avec les femmes. Elles allaient très loin. Elles faisaient des choses très violentes. Elles s'enchaînaient devant des administrations, elles mettaient leur vie en péril. Et c'était vraiment des femmes qui avaient un courage extraordinaire quand on pense à ce qu'était la société anglaise à l'époque. Mais de toute façon, quand même, comme en Angleterre et en France, les lesbiennes ne s'affirment pas encore dans des revendications spécifiques comme elles le feront dans les années 1920 à 1930. La question de la sexualité se pose surtout sur la place de la féminité dans la société et ce qu'elle représente par rapport aux hommes dans la sphère publique et privée. Elle ne se pense pas en termes de libération de mœurs. Si quelques féministes de cette époque prônent et choisissent le célibat, c'est dans la volonté de ne pas être inféodées aux hommes et d'assumer pleinement leur liberté. Mais les lesbiennes ne se révèlent pas dans les mouvements collectifs. Donc il n'y a pas encore de pensée lesbienne constituée. Seules quelques grandes égéries brisent le silence et ce sont les porte-paroles de la pensée saphique issues des milieux aisés, comme je le disais tout à l'heure. Alors tout ça va changer avec les guerres. Le 4 août 1914, le gouvernement français décrète la mobilisation générale. Et là, les femmes vont rentrer en guerre. Avec la Première Guerre mondiale, les femmes font leur premier pas sur la voie de leur émancipation. Les efforts requis par la guerre totale, l'absence des hommes mobilisés sur le front, les conduisent à les remplacer à l'usine, à diriger des entreprises, des commerces, des exploitations agricoles. Elles distribuent le courrier, s'occupent des tâches administratives et conduisent les véhicules de transport. Le 7 août 1914, le président du Conseil, Viviani, lance un appel à toutes les Françaises. En premier, ce sont les paysannes, puis en 1915, ce sont les ouvrières. Alors, ce qui est nouveau, c'est l'embauche dans les usines d'armement, dont les ouvrières sont désignées sous le nom de munitionnettes. Travail épuisant dont la journaliste féministe et libertaire Marcel Capi rencontre dans un article de journal, La Voix des femmes. Elle observe le poste de travail d'une ouvrière. Chaque obus pèse 7 kilos. 2500 obus passent entre ses mains en 11 heures. Comme elle soulève deux fois chaque engin, elle soupèse en un jour 35 000 kilos. Vous vous rendez compte de l'effort que ces femmes font? Et je ne crois pas qu'on en parle beaucoup dans les annales à l'heure actuelle. Elles sont à la cloche depuis un an. 900 000 obus sont passés entre ses doigts. Cette femme a donc soulevé 7 millions de kilos. Et pourtant, ces héroïnes du quotidien sont moins payées que les hommes. Beaucoup de jeunes femmes s'engagent comme ambulancières et comme infirmières. Et là, va apparaître dans cette catégorie les premières femmes lesbiennes qui vont donc s'engager comme ambulancières, comme infirmières. Il n'y a seulement qu'une femme qui soit médecin dans l'armée française, Nicole Mangin, une Lorraine, 1878-1918. Malgré la misogynie de l'époque, elle est admise à la faculté de médecine de Paris. Une seule femme. C'est une féministe qui, par sa volonté, s'impose dans un métier particulièrement fermé aux femmes. La guerre la projette en premier plan dans l'enfer de Verdun. Elle sert dans divers hôpitaux. Elle pratique la chirurgie sur les soldats français blessés au combat. En octobre 1916, on la remercie et on lui confie la direction de l'hôpital Edith Cowell pour infirmière à Paris et on la nomme médecin capitaine. Elle travaille dans cet hôpital jusqu'en 1919, elle est démobilisée et elle s'est suicidée en 1919, le 6 juin. Et c'est pas une fois qu'on a été usé au travail, une fois qu'on a conduit les ambulances, qu'on a risqué sa vie. Mais c'est normal, les femmes sont dévouées, elles sont modestes. Une fois qu'elles ont fait leur travail, il faut qu'elles rentrent et on ne parle plus d'elles. Combien de lesbiennes ont participé à la lutte en France et dans les pays alliés? Nul ne peut le savoir. Néanmoins, quelques personnalités lesbiennes nous sont connues, en voici quelques-unes. Dorothy Asner, célèbre réalisatrice, scénariste, productrice et pédagogue, qui est rentrée en guerre en 1917 et qui donc a été dans l'unité des femmes, dans les forces armées à cette époque, et comme conductrice d'ambulance. Donc on sait qu'après la guerre, elle a intégré le milieu du cinéma et s'est imposée dans un monde masculin sans jamais cacher son homosexualité. C'est une personnalité très intéressante. Si vous entendez parler de Dorothy Arzner, c'est une personnalité extrêmement intéressante. Toi qui es des États-Unis, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots? Est-ce que tu connais un peu son travail? Tu ne connais pas. Un couple de lesbiennes anglaises, alors je dis des femmes qui ont révélé qu'elles étaient lesbiennes, ce qui est extrêmement rare à l'époque. Un couple de lesbiennes anglaises engagées comme toutes les deux dans le mouvement des suffragettes, Vera Louise Holmes et Evelina Haverfield, en 1880-1969 et 1867-1920, ont créé un mouvement, le Women's Social and Political Union. Elles se rencontrent et de lors ne se quittent plus. Alors ces deux femmes ont une conduite extraordinaire pendant la guerre. Elle verra obtenu le grade de major. Elle a été dans les unités mobiles de l'hôpital des femmes d'Écosse que dirigeait Evelina. Elle est devenue administratif d'un hôpital en Serbie. Et en Serbie, on lui a, comment dirais-je, élevé un monument. Alors, je le redis, la pugnacité des mouvements féministes anglais a beaucoup contribué à l'émancipation des femmes. Alors, les Anglaises ont obtenu le droit de vote à partir de l'âge de 30 ans, en 1918. Pour les hommes, l'âge était de 21 ans. Et l'égalité des droits de vote ne sera votée qu'en 1928, alors que nous, il va falloir attendre l'après-guerre pour ce faire. Est-ce que je ne vais pas trop vite? Est-ce que ça va? C'est intelligible?
Et peut-être pour parler de traces, Ève, vous avez sûrement lu ou vu des adaptations cinématographiques du roman Le Puits de Solitude. Et on voit bien qu'effectivement, l'importance de la guerre, des guerres, et notamment de la Première Guerre mondiale, pour ces femmes qui vont pouvoir donc avoir une autre sociabilité. Et effectivement, ces Anglaises qui sont soit sur différents fronts en Europe, mais aussi sur d'autres continents, et qui témoignent, mais par la fiction. Et là aussi, pour nous, comment trouver cette histoire, notre histoire? Eh bien, ça va passer par cette fiction littéraire, par la poésie, on l'a vu tout à l'heure, mais par cette fiction. Et on voit aussi l'impossibilité de dire cette fiction, puisque ce roman a été interdit de nombreuses années.
Tu as très bien fait de souligner ce roman qui est extrêmement important, qui est le premier, je crois, à évoquer le problème des amours saphiques.
Non, pas les problèmes, les joies.
Les joies.
Merci.
Oui, quelle horreur d'avoir dit ça. Voilà. Voilà. Alors, on va passer aux années folles, 1920-1929. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, donc, toutes les femmes se mettant au travail pour remplacer les hommes partis au front, nombre d'entre elles doivent continuer à s'assumer seules, car beaucoup d'hommes ne reviennent pas de la guerre. Donc, il y a une émancipation qui est due à la guerre, forcée par le statut. Mais il y en a aussi qui se rebellent parce qu'elles ont pris les manettes, elles ont pris les commandes, et elles se rebellent contre les traditions du passé et décident d'afficher leur sexualité. Elles osent porter le pantalon, alors c'est ce qu'on va appeler les garçons. Elles osent fumer, conduire des voitures, et aussi elles osent se faire couper les cheveux. Alors, se faire couper les cheveux, ça fait très drôle de parler de ça à l'heure actuelle. Mais Victor Marguerite avait écrit un roman en 1922 qui s'appelait La Garçonne. Et pour la première fois, dans un roman à tendance féministe, écrit par un homme, bien sûr, parce qu'après, tout se passe bien, elle revient à la normalité, etc., etc. Mais enfin, il y avait un passage saphique, l'héroïne a une aventure homosexuelle. Mais révéler qu'une femme a le pouvoir, à l'époque, de donner à une autre femme la jouissance que l'homme s'est toujours cru seul capable de lui donner, alors ça n'a pas du tout été supportable, à tel point que l'auteur s'est vu retirer sa Légion d'honneur. Voilà. Alors, les garçons viennent de tous les milieux, sauf des milieux catholiques, bien sûr, et conservateurs, et du milieu rural, qui garde encore ses costumes et ses coutumes régionales. Alors, la France est en déficit démographique à la suite de la guerre de 14-18, et donc, le mariage et la maternité restent des buts prioritaires. Les propagandes anticonceptionnelles et la provocation à l'avortement sont interdits et l'avortement considéré comme un crime passible de la cour d'assises. Les femmes célibataires ne sont pas bien vues et certains homosexuels se marient pour donner le change. On en a parlé tout à l'heure parmi les égéries lesbiennes. Il y en avait quelques-unes qui étaient mariées, ça permettait un peu plus de liberté et de moyens financiers aussi. Alors, il y a quand même des lesbiennes qui sont dans ces années folles des pionnières courageuses qui font face à la lesbophénie. Elles portent le pantalon, certaines vont plus loin et s'habillent en veston et cravate, ce qui était absolument interdit. En adoptant l'habit masculin, elles sont les précurseurs de la libération de la femme et elles s'affranchissent des stéréotypes vestimentaires imposés par la société patriarcale. On pourrait dire même qu'elles brouillent les genres. Alors, il commence à y avoir des lieux lesbiens, le Monocle, le célèbre club, le bal du Rist,
où Suzy Soledor interprète ses chansons célébrant l'amour lesbien. Alors je vais faire un petit bond en avant en parlant du costume veston-cravate. Vous, ça vous paraît tout à fait normal, porter des blue jeans, vous coiffer comme vous voulez. Donc moi je vous ai dit, je suis né en 39, j'étais jeune prof. Un hiver où il faisait très très froid, je suis arrivé en pantalon. Ouh là 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 là. Alors la directrice m'a dit non, ça c'est pas possible. Alors moi j'ai dit c'est simple, moi je prends le train, il fait un froid de canard. Si vous me laissez pas venir en pantalon, je me porte pâle. Puis j'ai été voir toutes mes copines, puis j'ai dit voilà, qu'est-ce qu'on fait? Demain, on vient tout en pantalon. Et on est venu tout en pantalon. C'est quand même extraordinaire, parce que on peut pas imaginer ça à l'heure actuelle. Et quand j'étais aux Arts Déco, j'étais la première femme, excusez-moi de parler de moi, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais c'est un exemple, à porter un costume, veste et pantalon taillés dans le même tissu. Mais j'étais devenue un objet de curiosité. Voilà, pour dire où est-ce qu'on en était. Alors, quelques dates importantes quand même dans ces années 1920-1930, 1919, accès aux universités, 1920, équivalence entre bac féminin et masculin. 1924, programme identique filles et garçons dans l'enseignement secondaire. Et 1925, création de l'école polytechnique féminine. Alors, tout ça, c'est bien. On a vraiment l'impression que l'émancipation est en marche. Puis le crash de Wall Street en 1929 va annoncer la fin de cette période d'insouciance. Les années qui viennent s'annoncent difficiles économiquement et comme toutes les femmes en subissent les conséquences sur le plan, comme d'habitude, sur le plan social et économique. Pendant qu'il y avait les années folles en France, il y a eu une période qui me semble extrêmement importante, c'est la République de Weimar. Alors comme en France, les femmes en Allemagne participe aux efforts de guerre en occupant une grande variété d'emplois laissés vacants par les hommes. La Constitution de Weimar, le 19 janvier 1919, compte plusieurs femmes députées dans son assemblée constituante et proclame le droit de vote et d'éligibilité, l'égalité des sexes en matière civique, le non-discrimination des fonctionnaires de sexe féminin, la protection de la maternité et l'égalité des époux dans le mariage. Elles sont ainsi les premières femmes d'un grand État européen à obtenir le droit de suffrage. Alors ça, c'est très beau, c'est très bien, c'est écrit, mais dans la réalité, la société reste quand même très arriérée et conservatrice. Et au Reichstag, les femmes ne créent pas de groupe de pression féministe. Et elles sont obligées de s'agréger à des groupes d'hommes. Et elles sont aussi très religieuses et il y a beaucoup de conservatrices. Et la lutte des classes pour le socialisme et le communisme est quand même assez forte entre les groupes catholiques conservateurs et les groupes de gauche. Donc malgré les avancées du gouvernement, la société patriarcale aux vues étroites et sexistes cantonne toujours les femmes dans la fonction sociale la plus importante d'épouse, de mère au foyer. L'avortement reste passible de poursuite et les ouvrières ne connaissent pas l'égalité dans leur salaire. La voix des femmes ne se fait pas entendre encore. Alors néanmoins, à Berlin, en ce qui concerne la vie des lesbiennes, elle est assez bouillonnante. Les journaux lesbiens dits Freudine commencent à paraître en 1924. Il est étroitement affilié à la Ligue des droits de l'homme, dont le président Friedrich Radziwiłł qui publie la revue. Les annonces sont exclusivement lesbiennes, qui paraissent dans ce journal, et ça aide beaucoup toutes celles qui sont dans un isolement physique et psychologique, surtout pour celles qui n'habitent pas dans les grandes villes. Le Scorpio de Anna Elisabeth Weyrauch est un des premiers romans lesbiens et publié en 1919 et 1921. L'écrivaine Ruth Margaret Reuling publie en 1928 un guide sur le lesbien de Berlin, dont le prologue est signé par Magnus Hirschfeld, un des tout premiers sexologues de l'époque et militant de la cause homosexuelle en Allemagne. Alors, vraiment, on peut dire que dans les années 30, dans cette fameuse République de Weimar, il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de bars, la culture lesbienne est en mouvement et commence à se constituer. Mais hélas, cette période ne va pas durer, et j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que, en quelques jours, en une semaine, l'arrivée au pouvoir du chancelier Adolf Hitler marque la fin de nombreux droits des femmes et leur retrait de la vie publique. Ces années d'effervescence vont connaître, dès 1933, la répression nazie. Des rafles ont lieu, peu à peu, tous les espaces de rencontres lesbiennes sont fermés, la presse lesbienne est interdite, de même que les associations, et des listes de lesbiennes sont dressées. Le Berlin lesbien, c'est fini. La délation, la répression, la prison et les camps des années noires commencent et un voile d'épais silence s'abat sur les lesbiennes, silence qui n'est pas encore complètement dissipé de nos jours. Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a acquis beaucoup de droits, mais je pense que la bête heptacéphale du fascisme est loin d'être morte et qu'il suffirait qu'elle revienne pour que tout s'efface très vite. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ce qu'on a gagné, il faut le conserver et être extrêmement vigilante. Extrêmement vigilante. Et je pense que notre époque est une époque très tourmentée économiquement. On a vu la suite de notre visibilité pour nos revendications concernant le mariage pour tous, toute cette haine qui a déferlé et qui a montré que la France était encore bien nampuantie à peut-être 50%, je ne sais pas, de lesbophobie extrêmement forte, agissante et qui pourrait se révéler violente.
Alors, on aura une pensée pour très émue pour les femmes allemandes qui se sont battues pour garder, pour cacher ces journaux, ces traces de leur histoire, puisque vous avez bien compris, vous savez très bien que les nazis ont cherché, bien sûr, à ce que cette histoire n'existe pas, et donc on brûlait, on fait des autodafés, notamment si vous allez à Berlin aujourd'hui, c'est peut-être pas les années 30, mais en tout cas je vous le souhaite, parce qu'il y a une sacrée effervescence, vous pourrez aller voir un très beau monument, qui montre ce lieu où on a brûlé des livres en place publique, ce que les nazis ont choisi de faire, et on voit un monument qui en fait représente ces étagères vides de tous ces livres qui ont été pillés et brûlés par les nazis. Et des lesbiennes ont caché les revues, leurs revues, et je remercie les centres d'archives lesbiennes féministes allemandes de Berlin qui conservent, qui ont fait un système de photocopie. Et donc vous pouvez retrouver la garçonne, alors il faut lire l'allemand, moi malheureusement je ne le lis pas, mais elles ont fait ce choix de pouvoir mettre à disposition de nous toutes ces revues pour nous montrer effectivement l'effervescence de cette époque, et les originaux sont gardés bien sûr dans un institut national allemand. Mais je trouve que c'est important que nous lesbiennes, dans nos centres d'archives, on puisse mettre à disposition ce que nos aînés ont fait et surtout au péril de leur vie ont gardé, ont caché.
Merci Isabelle, j'espère qu'on pourra aller fouiner là-bas pour voir tous ces documents qui sont certainement extrêmement intéressants. Donc, dès 1928, et ça c'est important aussi pour la suite, le parti nazi définit sa position sur l'homosexualité. La voie est ouverte à la dénonciation, à l'arbitraire, les fichages systématiques des personnes homosexuelles. Il est bien certain que toute femme célibataire et indépendante est mal perçue, que les dénonciations sont nombreuses, les lesbiennes sont évidemment particulièrement visées et en grand danger. Alors évidemment, on va parler tout à l'heure du fameux article 175, que j'appelle l'arbre qui cache la forêt. Je pense que dire... Parce que dans cet article, il n'est pas marqué qu'il faut arrêter les femmes parce qu'elles sont lesbiennes et qu'il faut les punir, etc. quoique en Autriche, il y avait un article qui le disait, au même titre que les hommes, mais je pense que les nazis n'avaient absolument pas besoin de cet article pour arrêter ce qui ne leur convenait pas. Du reste, Rudolf Clark, voix officielle du parti nazi pour les affaires homosexuelles, rappelle dans son livre « Droit pénal et homosexualité » Les dégénérés doivent être éliminés pour la pureté de la race et je réclame une maison de correction pour les lesbiennes. Le livre « Hygiène sexuelle » du docteur Max Gruber, voix autorisée du nazisme, est révélateur de la volonté hétérosexuelle du fascisme. Il condamne l'homosexualité, la masturbation et écrit « Les rapports prennent place dans le mariage, son but est la procréation des enfants et leur éducation ». La croissance de la nation exige du mariage de produire au moins 4 enfants. Alors, ces choses-là, on va les retrouver dans ce que va proclamer le gouvernement de Vichy. Un centre de recyclage, alors ça, je trouve ça surréaliste, un centre de recyclage prépare 215 000 professeurs à l'application de ces théories. Ainsi sont créées les Lebensborn, fontaines de vie. Véritable haras humain, usine à produire de purs ariens. Il y en a 13 en 1944. Cette expérience d'eugénisme à si grande échelle est unique dans l'histoire. Ce qui est une connerie parce qu'au point de vue génétique, ça n'avait pas de sens. Enfin. Alors, il faut aussi dire aussi que toutes les femmes n'ont pas été contre le nazisme. Des femmes converties aux idéaux nazis participe à cette entreprise de production humaine et Gertrude Stolzkling, 1902-1999, présidente de l'association des femmes ferventes d'Hitler, déclare « La femme allemande doit être telle qu'elle fait et fait joyeusement tout ce qui lui est demandé de faire. Elle doit travailler physiquement et mentalement et doit renoncer à la luxure et au plaisir. » Programme magnifique. Alors, le nazisme est nourri de différentes théories ésotériques, mais c'est assez curieux parce qu'il y a un côté, bizarre, c'est que Hitler se référait en disant à Sparte, en disant « le Troisième Reich, c'est la continuité de Sparte ». Et c'est vrai qu'il y a une exaltation du virilisme, les statues d'Arnaud Brecker et tout ça. Et c'est très curieux parce qu'en même temps, il y a une persécution des homosexuels et en même temps, ils se réclament d'une civilisation où on demandait aux hommes de combattre ensemble et d'être plus que des frères d'âme, d'être des amants. Mais ça, il y a beaucoup d'ambiguïté parce qu'il y a effectivement, en fait, chez les nazis, il y avait énormément aussi d'homosexualité masculine. Donc, on va arriver au Front populaire à l'extrême droite. Alors, la crise économique qui touche les États-Unis puis l'Europe provoque une forte montée de chômage et des dictatures fascistes en Allemagne et en Italie. Ça a été vraiment... les crises économiques favorisent l'arrivée des dictatures. Alors, en France, à partir de 1931, le monde agricole et industriel subit une grave crise économique. Et les femmes sont particulièrement touchées par le chômage et on leur reproche de prendre le travail des hommes. En cette même année, en France, il y a quand même la sortie du film « Jeune fille en uniforme » de l'actrice et réalisatrice germano-autrichienne, Léontine Sagan, d'après la pièce de Christa Winslow, écrivain et sculptrice germano-hongroise. Les sous-titres en français sont rédigés par Colette. Adrienne Sahuké publie « Les dogmes sexuels », l'ouvrage dans lequel elle aborde 15 ans avant « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir, la question des préjugés sexistes sur les femmes. Est-ce que quelqu'un posséderait ce livre d'Adrienne Sahuké, « Les dogmes sexuels » qui a été écrit avant le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Je cherche ce livre. S'il y a quelqu'un qui peut le trouver. Je ne savais pas qu'il y avait eu un livre avant Simone de Beauvoir sur ce sujet. Alors, si la Chambre des députés, en 1932, adopte le suffrage des femmes, le 31 mars, le Sénat refuse une fois de plus de se prononcer. Donc, toujours pas de femmes au pouvoir, pas de droit de vote. Et puis alors, un retour, une propagande extraordinaire pour le retour de la femme au foyer, vraiment tout à fait dans la politique, digne des fascistes, voilà. Alors évidemment, il y a une opposition très forte entre les femmes qui ont évolué et puis toute cette clique de gens qui sont, qu'on a vu encore dans les rues à Paris. En fait, c'est un peu le même processus qui se répète. Alors, il y a la guerre civile en Espagne aussi. Alors, la guerre civile en Espagne va provoquer, dans quelque chose dont je parlerai tout à l'heure, des emprisonnements aussi en France, parce qu'on parle toujours des camps de déportation, mais il y a ce qu'on appelle les camps de rétention en France, où on emprisonne les prisonniers politiques. Alors on va emprisonner les gens qui se sont révoltés contre Franco, on va emprisonner les communistes au moment des accords russo-allemands, et on emprisonnera plus tard aussi tous les Français qui ne pensent pas comme le gouvernement de Vichy. Et ces camps de rétention, on en reparlera. Il y aura beaucoup de recherches à faire, parce que je crois que là, il y a des archives qui n'ont pas été consultées. Ces camps de rétention servent de réservoir pour les camps de déportation allemands. Alors, après la démission du premier gouvernement Blum, donc un gouvernement de gauche, les femmes Blum avait pris quelques femmes au gouvernement, bien qu'il n'y ait toujours pas le droit de vote. Là, il n'y a plus de femmes au gouvernement. Ça y est, c'est terminé. On n'en cause plus. Donc, on va tomber maintenant dans la collaboration vichysoise.
Peut-être juste avant de tomber dans la collaboration, oui, j'espère que ça ne va jamais nous arriver.
Hein. J'espère.
Effectivement, cette guerre d'Espagne, mais très rapidement, c'est quelque chose qui est très déclencheur, autant chez les hommes que chez les femmes, à travers l'Europe, à travers le monde. Des hommes et des femmes décident de s'engager, décident d'aller en Catalogne notamment, en Catalogne où le gouvernement populaire va donner, lui, le droit de vote aux femmes et aussi le droit à l'avortement, la joie dans la salle des militants du planning familial. Et c'est que cette histoire, elle est vraiment très importante. Et donc cette utopie qui en marche en Espagne, elle est fragilisée, bien sûr, par les fascismes, et notamment qui se relient et qui vont aider Franco. Et on a des femmes qui traversent l'Europe pour aller aider d'autres femmes, d'autres hommes, pour des idéaux républicains. Et ces parcours de femmes sont très très importants parce que c'est ces mêmes femmes qu'on va retrouver résistantes quelques années plus tard en France ou ailleurs. Et c'est pour dire que effectivement qu'on a une conscience politique, qu'on est en France, qu'on est en Suisse, qu'on est en Angleterre et qu'on voit le fascisme se lever en Espagne, eh bien on commence à frémir. Et vous avez peut-être lu le fameux roman de Virginia Woolf, Trois Guinées, où Virginia Woolf était terrifiée par effectivement cette montée des fascismes et notamment ce qui se passait en Espagne. Et ça, effectivement, c'est un point assez culminant qui va inspirer des femmes à s'engager.
Et alors, en contrepoint de ce que tu viens de dire très justement, la collaboration vichysoise et les théories pétinistes sont vraiment présentes. Elles sont assez terrifiantes. Je vais vous lire deux choses. Alors, si les juifs, les étrangers, les partis de gauche sont responsables, les femmes sont également considérées comme coupables et victimes de la dégénérescence. En cela, elles occupent une place spécifique. André Courtis, en octobre 1941, écrit un article dans le journal Candide, qui était un journal fasciste, « La femme française porte aujourd'hui, dans la défaite de la France, sa part, lourde part de responsabilité. Les hommes nouveaux l'ont compris. Les lois nouvelles, autant que sages, sont sévères. Elles freinent le déchaînement de l'avidité féminine. restreignent pour les jeunes filles l'accès aux carrières libérales, facilitent au contraire d'une façon qui équivaut à l'imposer le retour et le maintien de la femme au foyer. C'est quand même assez terrifiant d'entendre un texte comme ça. Alors, vous pensez bien que dans cette période-là, pour les lesbiennes, pour les femmes qui réfléchissent en politique, qui veulent lutter, c'est une période extrêmement difficile. C'est une période de délation. Il y a plusieurs milliers de lettres qui arrivent dans les commandantours à la Gestapo de dénonciation. Alors quand on parle je reviens toujours à cet article 175, je donne un exemple. Dans le petit patelin où j'étais gosse, il y avait deux femmes qui vivaient ensemble, elles étaient dans une maison assez grande, il y avait du terrain autour, c'était des lesbiennes. Alors on n'appelait pas ça lesbienne à l'époque, on appelait ça dégénéré, enfin on trouvait des tas d'adjectifs, on était adjectivés. Mais on parlait pas du mot lesbienne.
Ah bon, on les traitait pas de les deux magnifiques femmes de la très belle maison à côté. Non, on les appelait pas comme ça.
Non.
Je suis étonnée.
Bon, c'est autre chose. Donc ces deux femmes ont été dénoncées. Il suffisait d'aller à la commandanture, d'envoyer une lettre et puis de dire, oh, vous savez, elles sont bizarres, elles sortent le soir. Je crois qu'elles doivent faire de la résistance, etc. Or c'était tout simplement les voisins. Jaloux, et puis ces femmes qui vivent entre elles, c'est dégueulasse, tout ça. Et puis elles sont parties encore, elles ne sont jamais revenues. Voilà, ça c'est encore une chose qui n'est pas écrite, évidemment. Alors, gare à la délation, aux lettres de dénonciation qui risquent du jour au lendemain de vous envoyer en concentration. Alors, Vichy, c'est la collaboration, et bien évidemment, il y a des cas, par exemple, comme le cas de Christa Winslow et Simone Genet. Christa Winslow, qui est une écrivaine et sculptrice germano-hongroise, est lesbienne et ne s'en cache pas. Elle réside en France pendant la guerre et sert dans la résistance. Dans la maison qu'elle partage avec sa compagne, l'écrivaine suisse Simone Genet, elle cache des clandestins. En juin 1944, quatre Français abattent les deux femmes dans une forêt de Cluny. Le chef du commando prétend agir sur l'ordre de la résistance sous prétexte qu'elles espionnent pour le compte des Allemands. Or, l'antinazisme de Christa Winslow est connu, alors comment expliquer ces deux meurtres? Le chef du commando et ses trois complices, bien qu'ils soient des criminels de droit commun, sont acquittés faute de preuves. Alors là, à partir de ce moment-là, les pistes se brouillent, les témoignages ne sont pas fiables, et l'indifférence est toujours de mise lorsqu'il est question de l'homosexualité féminine.
Il y a eu un travail maintenant fait, et c'est une histoire, heureusement, est faite des historiens d'aujourd'hui et des historiens de maintenant. Et il y a eu un travail qui a été fait justement sur cette fameuse politique de Vichy. On voit bien qu'elle est faite effectivement par un regard assez hétérocentré et peu sur effectivement cette politique de lesbophobe, si on peut dire. On a bien vu effectivement, et ça a été décrit par des historiens, tout le travail sur la recherche, l'exécution. Vous savez qu'on a guillotiné un homme et une femme qui étaient pour avortement, pour avoir accompagné des femmes à avorter durant cette période. Donc ça, c'est des choses que les historiennes commencent à étudier, mais peu sur ces lois, quelle traduction pour les lesbiennes, pour les femmes qui aimaient des femmes, puisque vous savez bien sûr que les femmes de cette époque n'utilisaient pas le mot lesbienne pour se définir.
Alors, la résistance. Bon, la France est un grand champ de bataille. Les femmes mènent le combat du quotidien, parce qu'il faut nourrir les gosses, tout ça, il faut s'occuper des affaires. Et puis, bon nombre d'entre elles participent activement à la résistance. Alors, quel est le profil idéal pour rentrer en résistance? Il faut être disponible. Alors, il ne faut pas être marié, il ne faut pas avoir des gosses. Il faut avoir du courage, une conscience politique. Alors, on minimise toujours le rôle des femmes. Mais pourtant, elles font beaucoup de choses. Elles cachent des juifs, des réfractaires, des chefs de la résistance, des parachutistes, elles sont interprètes auprès des alliés, elles diffusent la presse clandestine, elles hébergent des réunions de résistants, fabriquent de faux papiers, participent au NAP, noyautage des administrations publiques, le NAP, N-A-P, gardent des documents, cachent des postes de radio en liaison avec l'ombre, déchiffrent des messages, participent à des réseaux de renseignement et d'espionnage. Elles sont agents de liaison, ça c'était celles qui risquaient le plus. infirmières, etc., etc. Certaines missions exigeant une grande disponibilité de déplacement et une excellente forme physique. Elles prennent beaucoup, beaucoup de risques et beaucoup sont arrêtées, torturées, déportées et envoyées dans des camps de concentration.
Certaines sont mariées, certaines ont des enfants.
Oui.
Et certaines, pendant cette guerre, vont aussi découvrir des camarades, femmes avec qui elles vont libérer des villes. C'est notamment le cas de Rolande Trempé, l'une des grandes historiennes lesbiennes féministes de Toulouse, qui est maintenant à plus de 90 ans et qui a été agent de liaison à Charleville-Mézières, dans le nord de la France. Et elle a découvert, elle a milité et elle a résisté avec une femme qui était mariée. Et au lendemain de la guerre, eh bien, elles ont vécu toute une vie à deux. Et donc, effectivement, des femmes qui se sont aussi révélées, réveillées durant cette guerre. Et quel que soit leur statut, ce temps particulier de la guerre leur a permis de vivre autre chose que ce qu'elles pouvaient vivre peut-être avant-guerre. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Eve Pascal. Et d'ailleurs, même des femmes et des mères hétérosexuelles se sont engagées dans la résistance et malheureusement ont été déportées. Et elles ont, malgré le déchirement, malgré le fait qu'elles savaient tous les dangers qu'elles faisaient encourir à leur famille, elles l'ont fait. Donc, la réalité de l'engagement des femmes est très plurielle, et je sais que tu le sais, mais je pensais que c'est important de le signaler.
Je suis mal exprimée, je veux dire qu'il y avait effectivement des femmes mariées comme des femmes célibataires, mais qu'il y avait beaucoup de jeunes célibataires qui prenaient des risques et qui étaient disponibles pour certaines missions. Mais bien sûr...
C'est vrai que, par exemple... Evelyne Roche-Dereux, qui est dans la salle, nous a permis de rentrer en contact avec des femmes qui, dans les mouvements de jeunesse, vous savez que dans les années 30, tu parlais donc de ces mouvements où on a aussi voulu libérer la jeunesse. Alors, vous savez, c'était très cantonné. Hein, il y avait les mouvements plutôt liés au Parti communiste, plutôt liés à l'Église catholique ou au protestantisme. Mais tous ces mouvements de jeunesse, en fait, ont été aussi des laboratoires de lutte pour ces femmes. Et ces femmes qui étaient des toutes jeunes femmes, effectivement, eh bien, ont été des agents de liaison extraordinaires. Et tu nous avais mis en contact avec une femme qui a résisté, elle avait 15-16 ans en région de Compiègne. Et cette femme, eh bien, c'était un temps où la résistance était aussi un temps de jeu, un temps d'amour. Et Rolande Trempé, avec d'autres historiennes comme Marie-France Brive, qui malheureusement est décédée depuis, ont montré aussi que la résistance était aussi des moments de grande liberté. Et c'était aussi des moments où le plaisir sexuel faisait partie du plaisir politique de résister. Et je crois que ça, c'est aussi important de le souligner.
Et tu as parfaitement raison, et on en pourra en parler aussi dans les camps où Eros est souvent près de Thanatos, c'est vrai. À différentes échelles de responsabilité, donc je confirme ce que tu dis, des femmes de tous les âges et de toutes conditions sociales participent à la lutte contre l'occupant, quelle que soit leur appartenance politique, de gauche ou de droite, et même d'extrême droite, il y a eu des résistantes aussi, religieuses ou sociales. C'est le patriotisme qui importe avant tout. Néanmoins, l'hétérogénéité des groupes de la résistance est la cause de clivages et de luttes internes, où bien évidemment, l'homophobie n'est pas à exclure. On le voit un petit peu avec l'histoire de Jean Moulin, là, où son homosexualité quand même a compté un peu dans la dénonciation. C'est pas très clair. Il y a des choses qui sont pas très claires.
Alors surtout, ce qui n'est pas très clair et terrible pour nous, c'est-à-dire qu'on est en 2013 et qu'on ne peut pas parler de l'homosexualité, du lesbianisme, de résistants, de résistantes, toujours. C'est toujours impossible à évoquer, ce qui est toujours, je trouve, terrible. Là, on parlait de Rolande Trempé, donc c'est un professeur émérite d'université. Cette femme qui a été décorée comme agent de liaison, eh bien, il est toujours difficile d'évoquer son lesbianisme quand on parle d'elle, et ça, je trouve ça terrible.
Alors, les femmes sont souvent oubliées dans la mémoire de la résistance pour des raisons socio-culturelles liées à leur statut, et de ce fait, peu obtiennent, une fois la paix revenue, la carte CVR, combattante volontaire de la résistance. Et c'est ça, parce qu'en toute modestie, vertu indispensable à leur sexe, il leur faut reprendre la place dans leur société, et le pays a besoin d'enfants. Parmi ces femmes engagées dans la résistance, il y a des lesbiennes qui se comportent avec courage et abnégation au même titre que les autres. Si elles gardent le silence sur leur vie privée, comment s'en étonner à cette époque où l'homosexualité est considérée comme une déviance mentale et une vie condamnable? Et c'est vrai que après la guerre, il a fallu qu'elles fassent tout profil bas, et certaines ont dû se marier même pour avoir un statut social, autrement elles étaient vraiment vilipendées.
Ce qui est terrible aussi, c'est se dire qu'une femme qui s'est battue et qui est dans un état parfois mental, physique, déplorable, doit encore se battre pour cette reconnaissance. Et notamment Claude Cahun, qui avec sa compagne se sont battus sur l'île de Jersey pour justement... suite à la guerre, vous savez qu'elles ont failli mourir, hein, puisqu'elles ont été condamnées à mort. Elles ont vécu plus d'une année dans des conditions terribles d'enfermement. Et quand elles ont été libérées in extremis, eh bien, il a fallu encore des longs mois, années de combat pour Claude Cahun, pour qu'elle puisse être reconnue. Et je trouve ça vraiment impressionnant comme état d'esprit.
Oui, alors aujourd'hui encore ce silence concernant la mémoire de nos aînés, cette méconnaissance, voire même ce déni persiste. Il y a plusieurs raisons à cette omerta. Les familles qui se taisent, la partialité des historiens, le silence des femmes, la difficulté des recherches, le manque de documents probants, la disponibilité et les convictions pour persister dans cette œuvre de mémoire. Les archives sont la plupart accessibles, mais il reste encore à faire un important travail d'investigation. Alors ça, nous allons parler de certains cas. Tu as parlé de Claude Cahun, donc tu m'as devancé. Il y a Rose, mais c'est pas grave, c'est ça n'a pas d'importance. Moi, je parlerai de Rose Valente aussi, historienne d'Arne, résistante et capitaine de l'armée française, qui était la conservatrice au musée du Jeune Paume et qui, par ses activités d'espionnage et de renseignement sur les exactions et spoliations durant les 4 années de l'occupation nazie, représente une épopée extraordinaire pour la défense du patrimoine artistique de France. Elle a travaillé au nez à la barbe des Allemands, gardant la trace de tout ce qui concerne la provenance et la destination de ce qui est pillé dans les musées et les collections privées. Elle fournit des informations à la résistance sur le train qui transporte leurs œuvres, afin que ce convoi soit épargné par la résistance. C'est un film, je ne sais pas comment il s'appelait, et c'est une histoire vraie. Ils ont fait tourner le train tout autour de Paris et ils mettaient à chaque fois le nom d'une nouvelle gare.
Ce qui est intéressant, c'est peut-être voir comment cette histoire de cette femme, parce que ça a été extraordinaire ce qu'elle a fait, elle s'est battue pendant des années pour récupérer et pour permettre qu'on puisse à nouveau admirer ses œuvres d'art. C'est qu'il y a eu une exposition il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans je crois, à Lyon, au musée de la Résistance, et que là aussi évoquer son lesbianisme, ses compagnes, a été quelque chose de terrible et difficile. Heureusement, la bande dessinée, vous savez, ce genre qui n'est pas très très digne des musées, eh bien, dans cette bande dessinée qui a été créée, et vous verrez une scène où on voit Rose Valente qui retrouve avec bonheur sa compagne, une superbe blonde. Et c'est, je pense que c'est important de voir que les historiens, les conservateurs ont toujours du mal à évoquer les amours de nos aînés, et qu'il faut effectivement la fiction soit littéraire ou la bande dessinée pour nous transmettre cette histoire. Voilà, comme si Rose Valente, cette femme extraordinaire, ça allait la déprécier, le fait qu'elle ait aimé des femmes.
Oui, du reste, lorsqu'on lui fait un enterrement digne de ce qu'elle avait fait, elle est titulaire de nombreuses décorations, personne n'a dit qu'elle a partagé sa vie avec une compagne. Pourtant, elle est enterrée à côté d'elle dans le cimetière de son village natal. Mais on n'en parle pas de ça, c'est clair. Alors, on reviendra du reste de toute façon sur l'après-guerre aussi, pourquoi le silence des femmes, hein, parce que ça c'est aussi une chose importante. Alors, il y a un très beau, très bel exemple avec le livre, je vois que tu l'as apporté, si tu veux me le passer. C'est le très bel exemple de Elle vivait d'espoir de Claudie Hunsinger, qui a eu le prix Tine Monnier en 2011. Alors, Thérèse Pierre est née le 5 novembre 1908 à Épernay et morte à Rennes le 27 octobre 1943. Elle repose au cimetière d'Épernay. Alors, ça aussi, elle contredit complètement ce que j'entends souvent dire par nos ennemis, de dire « oui, vous avez fait de la résistance, mais elles n'avaient pas de poste important », ce qui est tout à fait faux. Arrêtée le 21 octobre 1943 par la Gestapo, transférée à la prison Saint-Jacques-Cartier de Rennes, elle est dès son arrestation et jusqu'à sa mort torturée 4 jours consécutifs par les membres de la SPAC, service de police anticommuniste, des Français venus spécialement de Paris. Ils s'acharnent pour la faire parler, car ils savent qu'ils tiennent le chef d'un important réseau de résistants. En effet, Thérèse contrôle les groupes de la région Fougère. Elle a une 100aine d'hommes sous ses ordres. Thérèse ne parlera pas, malgré les astros sévices qui lui sont infligés. Peu de temps avant de mourir, elle a la force de dire à une autre détenue, à travers des tuyaux du chauffage central, « Ils ne m'ont pas eu ». Le matin du 26 octobre, on la trouve pendue au barreau de sa cellule, avec son bas. A-t-elle eu la force de se pendre, ou bien est-ce que ce sont les bourreaux qui avaient intérêt à la faire disparaître ? Par son sacrifice, elle a sauvé des camps de la mort un grand nombre de personnes qui, si elle avait parlé, auraient été fusillées ou envoyées en camp de concentration. À Fougères, le 28 octobre 1944, une cérémonie est organisée par sa famille et ses amis. Elle est grandiose, la place Lariboisière est noire de monde, mais on n'a pas parlé, bien sûr, de son homosexualité. Alors, il y a d'autres personnes dont je voudrais parler, mais parfois il y a de la résistance pour communiquer des noms, des choses. Alors, j'espère que ça se dilira au fur et à mesure, parce que moi toute seule et toi toute seule, on n'arrivera à rien.
Mais déjà, on est deux là.
Il faut que, il faut qu'on.
Deux toutes seules, non.
Deux toutes seules, hein.
Il y a du monde, là.
Pas dans le même coin de la France. Et il faut absolument que tout le monde soit à l'affût, peut-être dans vos familles, d'une tante ou d'une cousine ou d'un courrier, etc. Je ne sais pas.
Ève, est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour parler de cette histoire-là ou plus tard dans ton déroulement ?
Si tu veux, tu peux en parler. Moi, ça me repose. Pendant ce temps-là, je bois un petit coup.
Allez, repose-toi. Bois un petit coup. Oui, donc moi, je vous ai dit, je suis historienne de formation, mais je suis bibliothécaire parce que je préfère faire des histoires et raconter des histoires, même si je crois beaucoup en l'histoire. Et en fait, Claudie Hunzinger, c'est la fille d'une femme qui a aimé cette fameuse Thérèse, dont Ève vient de vous parler. Elle a aimé cette femme et puis elle a aussi aimé des hommes. Et Thérèse, eh bien, effectivement, vous avez bien cru comprendre qu'elle est morte toute seule. Et que même son agent de liaison, une femme qui travaillait sous ses ordres, ne savait pas qu'elle était homosexuelle. Et ce n'est pas la famille de Thérèse qui nous a raconté son histoire et ses amours saphiques. Non, c'est la fille d'Emma. Emma qui a aimé Thérèse dans les années 30. Et je vous parlais tout à l'heure de l'importance de ce moment d'engagement pour lutter auprès des hommes et des femmes d'Espagne. Et c'est donc Claudie Hunzinger, qui a 70 ans maintenant. Mais si elle a raconté l'histoire de cette femme qui a aimé sa mère, c'est parce que c'est son fils qui l'y a un peu obligé. Et moi, j'ai rencontré Robin et Claudie il y a 4 ans. Et je leur ai dit que c'était vraiment important qu'ils nous transmettent cette histoire, qui était notre histoire. Et ce n'était pas simple, parce qu'imaginez l'Alsace, moi je ne connaissais pas hein, avant d'aller rencontrer Claudie, imaginez une famille, plusieurs frères et sœurs, et raconter l'histoire d'amour de la mère avec une autre femme, eh bien, ça a été terrible. Ça a bien sûr créé des clashs entre eux. Et pour Claudie, ça a été quelque chose de raconter cette histoire. Et puis après, quand elle l'a couchée sur un papier, parce qu'elle voulait rendre hommage à sa mère qui était un professeur de lettres et qui adorait la littérature, eh bien, on a travaillé ensemble pour trouver un éditeur. Et là, impossible, on est dans les années 2000, de trouver un éditeur qui a envie d'entendre et de partager cette histoire. Et on a mis plus d'un an à chercher un éditeur. Raconter l'histoire de deux femmes qui sont aimées dans les années 30, une grande résistante, oubliée parce que quand même, il ne fallait pas trop parler de cette histoire un peu sulfureuse. Et puis on a trouvé une maison d'édition, Grasset. Et depuis, je vous le conseille, vous pouvez le trouver en poche, parce que Grasset, c'est un petit peu cher parfois. Là, je suis venue avec l'édition Grasset, mais ça vient d'être sorti en poche. Et il y a eu plusieurs prix des lecteurs. Et je trouve que c'est notre plus belle victoire à nous. C'est-à-dire qu'on a voulu nous mettre dans le placard, et on a quand même réussi à trouver un éditeur, et on a trouvé surtout un public. La plupart des hétérosexuels qui sont intéressés par notre histoire de nous, lesbiennes féministes. Et je pense que c'est important de voir qu'on a des alliés, et que parfois on nous dit que notre histoire ne nous intéresse que nous, et donc on n'a pas envie de la mettre sur la place publique alors que c'est faux. Et donc je vous invite à découvrir ce roman qui a touché beaucoup d'hommes et de femmes à travers la France. Et c'est un roman. Alors quand je lui ai demandé est-ce qu'on pourrait peut-être faire une préface de Christine Barr, cette grande historienne lesbienne qui travaille notamment sur cette période, eh bien elle était un petit peu embêtée. Elle a dit non, je vais rester derrière la couverture du roman. Alors lisez ce roman. Mais ce n'est pas vraiment un roman, c'est une histoire vraie.
Et il faudrait aussi parler du film.
Oui,
le
un
film
documentaire.
Qui a été fait par son neveu, je crois.
Son fils.
Ou son fils, oui. Alors, c'est un documentaire qui reprend bien sûr l'histoire du livre, mais il y a quelques photos, il y a quelques... Il y a des documents, et c'est très bien. C'est très émouvant. C'est un beau film qui porte comme titre, je crois, Mais où sont nos amoureuses ? Alors, on parle des camps de concentration, mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faudrait parler des camps d'internement. Alors, les camps d'internement, moi, je... Parce que tout ça, pour le moment, on est en train de parler d'histoire, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle ? Ben oui, ben on fait des recherches quand même. Alors, moi, je m'occupe en ce moment de faire des recherches au camp de la Neubrem, qui se situe dans la banlieue de Sarrebruck, non loin de la frontière mosellane, en bordure de la route de Forbach. Alors, c'est une situation particulière, la Moselle et l'Alsace, parce que ce sont des pays qui sont annexés par l'Allemagne. Alors, le camp de la Neubrem a quand même quelque chose de particulier. C'est pas un camp de concentration, c'est un camp de rétention, mais absolument épouvantable. Le directeur disait « ein Tag, ein Tod », c'est-à-dire « un jour, un mort ». Alors, vont se retrouver dans ce camp, qui est d'abord ouvert pour les hommes, à partir du début de 1944, un rouage essentiel de la déportation des femmes vers les camps d'Allemagne. Deux tiers environ de ces femmes appartiennent à un réseau ou à un mouvement de la résistance. Pour la plupart, elles sont arrêtées en France et envoyées à la Neubrem après avoir subi interrogations et tortures infligées par les sbires de la Gestapo. Venant de diverses prisons, elles sont regroupées avant le départ au fort de Romainville. Seules quelques-unes partent de Nancy, Dijon ou d'autres lieux et elles sont arrêtées au cours de l'été 1944 dans la Moselle annexée ou en Meurthe-et-Moselle. Elles viennent de tous les milieux, de tous les horizons de France et de pays d'Europe. Le camp est entièrement dirigé par la SS, les conditions d'internement sont déplorables et les prisonnières subissent des sévices d'une extrême cruauté. Beaucoup meurent avant leur départ vers le camp de Ravensbrück. Oui, au bout de 6 mois, elles étaient expédiées à Ravensbrück si elles n'étaient pas mortes avant. Sur le taux des déportés, près d'une femme sur 5 ne revient pas. Et parmi les rescapés, beaucoup souffrent de telles séquelles qu'elles ne peuvent reprendre une vie normale. Alors ça, c'était un camp terrifiant. Là, je suis en train de faire des recherches, puisque j'habite en Moselle. Je viens aussi de faire la connaissance d'une autre catégorie de déportés, dont j'avais jamais entendu parler. C'est ce qu'on appelle les déportés politiques. C'est une association. Ce sont les victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale. 71 ans après, les patriotes résistants à l'occupation, ils s'appellent les PRO, PRO, attendent toujours une reconnaissance. J'ai été voir la présidente de ce mouvement. Alors, de qui s'agissait-il ? Eh bien, il s'agissait de Mosellans qui ne voulaient pas, premièrement, signer le papier comme quoi ils allaient obéir au Troisième Reich et au Führer. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas faire le salut nazi. Enfin, ils rentraient en résistance non armée, mais qui demande énormément de courage. Alors, ils ont été déportés par famille entière, sur dénonciation, bien souvent. Et ils sont revenus dans un état lamentable, et beaucoup ne sont pas revenus. Et ils étaient déportés dans des camps qu'on pourrait assimiler aux camps de concentration, parce que c'était exactement le même régime. Alors là, c'est une recherche qu'on va commencer avec la présidente. Je lui ai dit que je faisais des recherches sur les femmes lesbiennes. On m'a dit, ça ne me dérange pas, j'ai l'esprit large. mais j'aurais pu avoir une fin de non-recevoir. Et donc, on va commencer à chercher toutes les deux. Parce qu'il y a des archives auxquelles on ne pense pas. Il y a les archives de la police aussi. Je ne sais pas dans ta région si tu as pu avoir accès aux archives de la police. Grosse question. Question qui
Alors,
fâche.
En fait, Ève, je n'ai pas fait mes devoirs de vacances. Donc, je ne suis pas allée encore dans les centres d'archives. Mais tu as raison, c'est important. Alors, c'est... Ces archives, en fait, elles ont déjà été exploitées par un certain nombre d'historiens, et notamment l'historien qui va être en charge d'un musée qui va ouvrir ses portes dans un an et demi près de Perpignan, à Rivesaltes. Et cet historien, eh bien, il a fait des recherches, sauf que comme tout historien, il a regardé dans une certaine direction, et pas forcément avec notre grille de lecture à nous, c'est-à-dire une grille de lecture lesbienne féministe. Et donc, effectivement, il y a des recherches à faire. À savoir aussi que les femmes qui avaient différents statuts, différentes nationalités, ça pouvait être des Allemandes, des Espagnoles, des Juives, différentes femmes qui étaient persécutées par le régime français, on est bien d'accord. Et puis ces femmes aussi étaient accompagnées par d'autres femmes, notamment des femmes de la Croix-Rouge. Et comme les ambulancières dont tu nous parlais de la Première Guerre mondiale, eh bien il y a un certain nombre de lesbiennes qui se sont engagées au niveau de ce mouvement de la Croix-Rouge et qui ont donc accompagné, aidé d'autres femmes qui étaient internées dans ces camps. Et cette histoire-là, elle est importante parce que ces infirmières, ces volontaires, ces bénévoles, eh bien, c'est une histoire qu'on ne connaît pas ou peu. Et moi, j'ai la chance de travailler dans un lieu de mémoire où une de ces femmes lesbiennes a fait des miracles. Elle a sauvé plus de 500 enfants. Et pour moi, c'est important d'être dans ce lieu de mémoire près de Perpignan et de dire que cette histoire, elle est importante à transmettre. Alors, elle est transmise depuis peu. Mais quand l'historien qui a fait sa thèse sur l'histoire de cette maternité de la Croix-Rouge, quand il évoque le lesbianisme de cette femme, eh bien il rougit. Et bon, j'essaie de pas trop me mettre en colère, bon, mais je me dis le pauvre, rougir parce qu'une femme est lesbienne. Alors bon, j'essaie pas trop avoir de pitié parce que je pense qu'il fait pas son boulot d'historien et que donc c'est à nous militantes avec d'autres historiennes et historiens de transmettre cette histoire de ces camps qui ont été des lieux de résistance tous les jours, comme tu disais. On contraignait ces femmes à avoir peu de moyens de survie, que ce soit alimentaire, de sommeil, et elles ont dû créer des liens très très forts entre elles. Souvent, elles étaient aussi avec des prostituées, elles étaient aussi avec d'autres femmes, d'autres catégories sociales, et c'est important aussi de faire l'histoire de toutes ces femmes.
Oui, et j'ai connu quand j'étais jeune, mais malheureusement j'étais jeune et bête, parce que j'étais tellement impressionnée par les confidences que m'ont fait ces déportés. Je reviens aux déportés espagnols, notamment Rosario, c'était la fille d'une journaliste rouge d'Espagne. Elle a été avec sa mère dans un camp français, et après elle est partie à Ravensbrück, elle en est revenue. Et je vais parler tout à l'heure de l'état d'esprit de la France quand ils sont revenus, ces gens, ces personnes, et de ce qu'on était prête à entendre, ou à ne pas entendre surtout. Alors donc j'ai dédicacé la deuxième partie, parce que ça, pourquoi j'ai fait ça, je crois que c'est nécessaire quand même d'avoir le fil conducteur et de savoir d'où on vient et quelle a été la suite des événements, comment c'est arrivé. On peut faire un parallèle avec aujourd'hui, et ça permet de voir un petit peu, un peu plus clair sur le sens de l'histoire. Alors, à celles dont on ne prononce jamais le nom, qui ne sont écrites sur nulle tombe, dont aucune urne n'a recueilli les cendres, nous avons le devoir de porter votre mémoire, de briser le silence et de vous rendre à l'histoire. Donc ça, c'est la partie très sensible. C'est la partie de la déportation. L'être humain, ça c'est un extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'être humain n'est pas un objet où qu'il soit. Il reste toujours une personne, un membre de la famille humaine. À l'opposé, tout auteur de violence détruit en lui-même sa propre dignité. Il n'est pas question de minimiser les persécutions et les massacres à l'encontre des peuples et des minorités considérées par les nazis comme inférieures, ce qu'ils appelaient les Untermensch. Aucune minorité n'est négligeable, mais aucune ne peut être oubliée, car toutes méritent reconnaissance et respect pour leurs souffrances et pour leurs sacrifices et leurs martyrs. En ce qui concerne l'homosexuel masculine, il y a quelques documents et des récits rapportés par les rares survivants de cette période. En ce qui concerne les lesbiennes, c'est un grand manque historique, car peu de femmes parlent officiellement à leur retour de déportation. Néanmoins, il existe quelques témoignages écrits et confidences orales qui prouvent la présence des lesbiennes dans les camps de concentration. Considérer la déportation et la persécution des lesbiennes comme un détail de l'histoire, voire même la nier, parce qu'elles ne sont pas aussi nombreuses que d'autres catégories de déportés, est inadmissible. On se retranche trop facilement derrière le paragraphe 175 du code pénal allemand qui ne comporte pas le délit de lesbienne. L'absence de condamnation pénale ne signifie pas autant l'absence de condamnation sociale. Claudia Schoppmann donne à titre d'exemple, une écrivaine allemande, le cas d'un couple de femmes dénoncé en mai 1940 par un voisin. Les deux femmes dorment dans le même lit, précise le procès Verdal. Quant au code pénal de l'Autriche, il comporte un article spécifiquement réprimant et condamnant la relation entre femmes, article qui reste en vigueur suite à l'Anschluss, une action de l'Autriche par Hitler, du 12 mars 1938. Le paragraphe 209 condamnant la pénalisation des homosexuels est abrogé seulement le 25 juin 2002. Il n'y a pas longtemps. Alors, parmi les milliers de femmes internées, il y a forcément des lesbiennes, ne serait-ce que sur le plan mathématique. La présence de blocs réservés aux lesbiennes est attestée dans certains camps, comme à Butzow, ex-Exdera, RDA. Elles sont maltraitées et humiliées. Les SS insistent les prisonniers du camp à les violer. Dans le camp de Ravensbrück, des lesbiennes portent le triangle rose avec le sigle LL, Lesbisch Lieb, amour lesbien. Mais le plus souvent, c'est le triangle noir des asociales qui leur est attribué. Le sort réservé aux lesbiennes dans les camps de concentration à partir de 1942, des bordels sont mis en place dans de nombreux camps. Un grand nombre de prisonnières sont forcées à cette prostitution et particulièrement les lesbiennes. Les nazis pensent ainsi les remettre dans le droit chemin. Après 6 mois dans ces bordels, elles sont renvoyées dans un camp d'extermination où elles sont éliminées dans les chambres à gaz. D'autres sont utilisées par les médecins nazis afin d'expériences médicales, traitements atroces dont la seule échappatoire est la mort. La caractéristique de certaines détenues comme lesbiennes peut découler de l'histoire et des circonstances de leur déportation, ainsi que des signes extérieurs, allure masculine, qui joue un rôle très important, l'aspect féminin étant un élément de dissimulation. Ça, c'est une chose que les femmes se sont féminisées pour celles qui étaient un peu trop butch, et ça passait un petit peu mieux. L'apparence physique avait une grande importance. Alors, si on a le malheur d'être juive, en plus, les lesbiennes sont particulièrement menacées. Claudia Schoppmann évoque le cas de Henny Sherman et de Marie Punger, internées au camp de Ravensbrück. Elles sont sélectionnées par Friedrich Meneke, qui les déclare indignes de vivre comme des dizaines de milliers d'autres patientes. Dans son diagnostic, il décrit Henny Sherman ainsi, lesbienne compulsive, fréquentant seulement ce genre de bar et de club. N'utilisez pas son prénom Sarah, juive, apatride, 5. Donc c'est ça, et si on peut retrouver des documents avec... parce qu'on dit que c'était pas marqué, mais si, les Allemands notaient tout. Alors, il y a peut-être des choses aussi qui ont été détruites, et je ne sais pas, les archives allemandes sont ouvertes, mais pour arriver à les avoir, moi je suis en correspondance avec l'Allemagne, j'ai du mal à avoir des réponses positives. Il va falloir que je me déplace, je ne sais pas comment faire. Et il faudra... Il faudra voir comment on va agir par la suite. Alors donc, ces deux femmes ont été envoyées dans les chambres à gaz, bien évidemment. Les lesbiennes faisaient partie aussi, on l'oublie, du programme T4 qui concernait l'euthanasie des handicapés mentaux et physiques. Voilà.
Alors peut-être pour préciser, parce que tout le monde n'est pas une spécialiste comme toi, Ève, des camps d'internement et de concentration. Ravensbrück, c'est un camp donc, où il n'y avait que des femmes qui étaient donc déportées pour différentes raisons. À côté, il y avait aussi un camp d'hommes. Et quand on parle de Ravensbrück, on parle donc d'un camp de femmes. Des femmes françaises y ont été déportées pour faits de résistance, notamment. Et donc des femmes allemandes, mais aussi des femmes de différents pays européens. Et c'est aussi important de voir tu nous en parleras tout à l'heure du retour de ces camps. En tout cas, ce camp de femmes, ça a été aussi des chocs culturels. Parce qu'on voit bien que Germaine Tillon, qui a été déportée dans ce camp, et a résisté avec d'autres femmes, et notamment en créant une opérette. Vous avez peut-être lu son opérette, puisqu'elle est accessible, hein, elle est en livre de poche. Eh bien, il y a un moment, un clin d'œil à la... sous-culture, subculture, comme on dit, lesbienne butch allemande, et elle nous parle de ces fameux julots qui étaient là, dans le camp de Ravensbrück. Et donc c'est vrai que pour les Françaises, ça a dû être un choc culturel que découvrir ces butch allemandes, ces femmes allemandes, même si malheureusement toutes les femmes étaient tondues dans ce camp de concentration, donc effectivement les allures divergeaient. Et c'est important d'aller vers cette histoire. Et on voit qu'il y a eu en 2011 un colloque à Ravensbrück parlant donc des lesbiennes. Donc les lesbiennes allemandes ont pu organiser un colloque d'études qu'il y a 2 ans. Je pense que c'est assez impressionnant quand même. Mais on commence à y arriver. Et c'est aussi pour ça qu'avec Eve, on voulait être présent avec vous pendant cette Europride, parce qu'il y a des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que notre histoire, elle va commencer à nous être transmise. On va continuer de la fabriquer. Et notamment avec les Allemandes, qui là ont réussi quelque chose de très très important il y a 2 ans, sur le lieu de mémoire. Elles ont pu rendre visibles ces persécutions. Et bien effectivement, ça va nous demander à Eve, à moi, à vous et à d'autres d'aller peut-être en Allemagne, de traduire, puisque le colloque bien n'est pas traduit, il est en allemand. Mais en tout cas, ça avance. Et ça, c'est vraiment important de le signaler.
Alors, pour faire un parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'amour et la liberté pendant la résistance, dans les camps, c'est la même chose. Eros et Thanatos. La vie dans les camps, bien sûr, est un enfer difficile à concevoir pour qui ne l'a pas vécu. Mais dans la pire détresse, l'amour est une force qui s'impose. Et il s'impose dans les camps, malgré les risques, malgré la souffrance et la mort. Il existe des témoignages écrits de l'existence de l'amour entre femmes. Il est vrai qu'ils ne font qu'effleurer le sujet, la discrétion étant de mise. La réalité lesbienne est occultée, car stigmatisée au-delà de la libération et même au-delà de la mort par le silence et le déni dans les familles. Parmi les témoignages, il en est un qui explique particulièrement bien l'intensité de l'amour entre deux femmes. C'est celui de Margaret Burmer-Neumann qui écrit cette phrase inouïe. « Je remercie le sort de m'avoir conduite à Ravensbrück, car j'y ai rencontré Milena. » qui écrit encore à la mort de Milena, « La vie a perdu tout son sens pour moi. » Elle a rédigé après sa libération un livre qui raconte la vie de Milena Jesenka, donnant un des plus beaux témoignages sur la résistance à Ravensbrück, racontant tous les petits gestes de l'amour, offrir des fleurs, se donner la main, se voir chaque jour à tout prix. Une telle relation ne va pas sans prise de risque, parce que c'était puni de rosser, de coups de bâton à y laisser la vie. Rendre compte de la déportation des lesbiennes et de leur persécution est un défi. Défi qu'il faut relever pour restituer une partie de l'histoire collective lesbienne déjà faussée et niée et qui risque de se perdre. C'est essentiel aujourd'hui plus que jamais dans ce monde où les lesbiennes continuent à subir discrimination de femmes et de lesbiennes. Ce n'est pas fini. Alors, maintenant, après-guerre. Alors, pourquoi est-ce que les gens ne parlaient pas après-guerre ? Moi, j'ai ressenti ça, bien que j'étais enfant, c'est que les gens, quand ils rentraient, ils avaient été tellement au-delà de ce que les gens qui étaient restés avaient vécu, que les gens n'avaient pas envie de les écouter. Eux n'avaient pas envie d'en parler, et les gens n'avaient pas envie d'écouter. Et ce qui est terrible aussi, c'est que souvent, on les culpabilisait en plus en leur disant ben oui toi si t'es revenu c'est que t'as dû faire quelque chose qui n'était pas tout à fait bien, tu t'en es tiré mais pas les autres. Alors il y a eu le complexe de la survivance qui même a fait des dégâts même au niveau des familles de déportés. Je sais des personnes de mon âge qui me disaient mais moi je suis enfant de déportés et quand j'étais à l'école, comme j'étais enfant de déporté, on ne me voyait pas bien, on n'était pas gentil avec moi, on me rejetait parce que j'étais enfant de déporté. Ça paraît absolument extraordinaire, mais c'était la vérité de l'époque. Les conditions donc de retour sont difficiles, l'accueil est décevant et les repatriés mal acceptés. Il y a une petite anecdote qui est assez extraordinaire. Une déportée hospitalisée au Val-de-Grâce raconte que lorsque le médecin qui la soigne remarque son numéro de matricule qu'elle avait tatoué sur le bras, il lui demande ce que c'est. elle lui parle alors des camps. Elle lui explique ce que c'est. Incrédule, il lui a délivré un bon de consultation pour l'asile d'aliénés de Sainte-Anne. Alors, on ne voulait même pas les croire quand ils racontaient ce qu'ils avaient vécu. L'état de santé et ensuite de maintes déportées ne leur permet pas de regagner leur foyer dans les médias. Beaucoup, une fois dans leur famille, ne sont pas visibles pour les enfants à cause de leur extrême faiblesse et de peur d'être contaminés par les maladies. De nombreux couples divorcent. Les familles ont appris à se passer des absents. Celles et ceux qui ont vécu l'horreur ont changé. Et certains ne s'en remettent pas. L'incompréhension de leur entourage ne favorise pas leur réinsertion dans la vie normale. La société de l'après-guerre est partagée entre divers éléments. La haine, les règlements de compte entre ceux qui sont restés et soupçonnés à tort ou à raison de collaboration, ceux qui sont partis en exode, ceux qui ont fait du marché noir ou ceux qui ont pactisé avec l'occupant. Alors il y a eu aussi la misérable histoire des femmes tondues dans fin 44 et 45. Il y en a qui ont été même molestées, fusillées. Et comme toujours, les femmes sont considérées comme responsables. Elles catalysent toujours les peurs et les frustrations. Alors, moi, j'ai vu ça, étant gosse. Alors, celles qui avaient vraiment fait de la collaboration, ce n'est pas vraiment celles-là qui ont été tondues. Il y en a qui ont été tondues parce qu'elles avaient été tombées amoureuses d'un Allemand, un soldat. D'autres qui ont été tondues parce qu'on a raconté des conneries sur elles. Mais c'était vraiment une période assez terrible. Aurais-tu quelque chose à dire là-dessus? Non, pas particulièrement aussi.
Oui, je pense que là aussi, c'est une histoire qui commence à être faite par rapport à ces femmes tondues, tout doucement mais sûrement, ça c'est important.
Merci, mais pardon, je ne voulais pas te couper la parole. Je voulais juste une petite précision pour celles qui ont l'occasion d'aller à Paris. En ce moment, au musée du Quai Branly, il y a une exposition sur les cheveux. Et il y a toute une partie qui concerne justement la tonsure des femmes soupçonnées ou accusées de collaboration ou de relation avec les soldats allemands. Voilà, une partie qui est intéressante, mais un peu dure.
Merci effectivement de préciser.
Tu pouvais le garder. J'en m'en ai donné un autre. Alors.
Est-ce que je peux continuer? Donc oui, effectivement, cette iconographie, elle apparaît, elle est aussi avec un espace critique, hein, dans l'espace public, dans notre espace public. Il y a aussi quelque chose qui sera étudié, c'est toute la solidarité des femmes, et on parlait du camp de Ravensbrück, donc quand elles sont rentrées, elles ont mis en place une structure associative, la seule non mixte des déportés. L'amicale des déportés de Ravensbrück, c'est la seule amicale de déportés non mixte. Et dans ce lieu, les femmes ont cherché à construire, à transmettre leur histoire. Je crois que c'est vraiment important. Et là aussi, il y a tout un travail à faire par rapport à leur archive. Et elles ont aussi mis en place des solidarités pour permettre à des femmes qui étaient, comme tu disais, dans des situations de santé vraiment terribles, de pouvoir bénéficier de soins, notamment dans les solariums en Suisse. Et donc, cette solidarité de femmes a permis aussi que des femmes puissent bénéficier de soins. Et là, moi, je suis en train d'accompagner un homme. Effectivement, il semblerait que pour les enfants de ces déportés, c'est assez complexe le rapport à cette mémoire. Mais pour les petits-enfants, ça a été un autre rapport. Et là, j'accompagne un homme de plus de 70 ans, qui est plutôt de droite, voire bien de droite, et qui a envie de transmettre l'histoire de sa tante déportée à Ravensbrück pour fait de résistance. Et cet homme, en fait, il a aimé sa tante, et il a un souvenir, comme toi, tu parlais des souvenirs d'enfant, terrible de cette femme revenue des camps, et il a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment elle a pu survivre, et il cherche à transmettre cette histoire. Et on voit bien que, selon les générations, on regarde et on écoute ces témoignages d'une façon très plurielle, et j'espère qu'on va arriver à un moment où on va pouvoir relier. Moi, j'étais... petite fille de résistant et donc enfant, j'avais aussi un autre regard d'une autre génération que toi, Dave. Et je pense que c'est important et j'espère qu'on va arriver à ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a perçu, qu'est-ce qu'on a regardé, qu'est-ce qu'on nous a transmis pour faire ensemble cette histoire.
En conclusion, je dirais que la déformation du passé aveugle le présent. Il est vraiment important qu'on se réapproprie notre histoire. Il n'est jamais trop tard pour revisiter l'histoire. Ce serait absurde de baisser les bras Le passé s'enrichit de nouvelles découvertes qui permettent une analyse et un éclairage différents. Et ces recherches doivent être menées en France, mais également dans les pays alliés dont les femmes ont participé à la lutte contre le nazisme, dans l'armée et la résistance. Toutes les archives n'ont pas été consultées. Il y a encore du collectage, des témoignages à engager, des documentations à découvrir. J'ai appris dernièrement qu'il y avait dans les caves à Chartres un million ou peut-être plus de lettres de dénonciation. Donc il y a quand même encore beaucoup de choses à voir. L'histoire des femmes désormais reconnue, il faut espérer que les lesbiennes y trouvent leur juste place. Il n'est pas admissible que l'on passe sous silence les luttes et les souffrances des lesbiennes dans la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale, qui finalement, par leur sacrifice, permettent qu'aujourd'hui nous soyons là ensemble. Et c'est un grand bonheur d'être avec vous toutes. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. Et maintenant, j'ouvre le dialogue à la salle si vous avez des questions à nous poser.
Bonjour. Et déjà, je voudrais reparler un petit peu de « Elle vivait d'espoir ». Parce que si Robin Hunzinger a pu faire ce film et si Claudie Hunzinger a pu aussi ensuite écrire ce livre, c'est parce qu'ils avaient la trace de la correspondance de Emma et de Thérèse. Et moi, j'ai un petit peu travaillé en centre de documentation ici en France, mais aussi à l'étranger, à Vancouver notamment, dans les pays anglo-saxons. Et il y a une grande réflexion qui est menée sur comment transmettre notre histoire. Ben, là, je peux profiter de ce moment-là où on est là aussi pour dire qu'il y a une petite technique qui est toute bête, qui consiste à, chez soi, avoir une boîte, un carton, sur lequel on a écrit « S'il m'arrive quelque chose, donnez ça à tel ou tel endroit ». Alors, on a quelques centres d'archives, des archives lesbiennes ou des archives LGBT ou d'autres, la BNF. Mais on a des endroits ici en France où on peut déposer nos documents, y compris actuellement. Et donc, on peut chez soi mettre une petite boîte en mettant « Veuillez donner ce carton aux archives lesbiennes ou aux archives du féminisme à Angers ou à tel endroit ». Et dans ce carton, on n'est pas obligé de réfléchir au quotidien à sa mort, mais on peut se dire, eh ben voilà, tiens, tel document, ça c'est important, j'en fais une copie, je le mets dans cette boîte, ou des choses comme ça. C'est une petite piste, il y en a plein d'autres, il y aura pendant cette Europride peut-être une réflexion sur les centres d'archives LGBT, mais voilà, entre vous qui avez du mal à recueillir des documents parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, entre les familles qui ont des choses dont ils ne savent pas quoi faire, entre nous qui avons toute l'histoire de nos associations et de nos vies, pensons aussi à cette transmission-là.
Ça, c'est une très bonne idée, mais dernièrement, j'avais l'occasion de pouvoir parler de femme médecin à Strasbourg qui a été dans les camps et qui a sauvé beaucoup de monde et qui était lesbienne, et la famille veto. Alors, c'est ça aussi qui est dur, hein, parce que quand on a des pistes, il faut pouvoir les mener à bout. Mais cette idée de boîte, moi, je la trouve superbe. Je vais le faire.
Oui, parce que surtout dans le cas où pour certaines femmes on ne parle pas et on ne parle pas à sa famille, des fois la transmission ne se fait pas par malveillance, mais simplement par ignorance. Je ne sais pas ce que ma grand-mère ou ma tante auraient voulu faire de ces affaires, donc je ne prends pas le risque de les donner. Bêtement, dans ce cas-là, c'est super utile.
J'aurais voulu qu'avec lorsque vous avez parlé de Claude Cahun, vous parliez de son amie Marcel Moore, avec laquelle elle a vécu toute sa vie, avec laquelle elle a résisté, elle a fait ces choses magnifiques à Jersey. Bon, je vais peut-être apporter un bémol à tout ce que vous avez dit. Il y a aussi des témoignages des lesbiennes dans les camps qui ont collaboré avec les nazis. Et, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez ne regarder que le... Le côté face et pas le côté pile.
Non, il faut le prendre en compte aussi. Non seulement il y a eu une collaboration dans les camps, mais il y a des Françaises qui ont fait partie des mouvements fascistes. C'est évident. C'est pas parce qu'on est lesbienne qu'on est vertueuse, forcément. Et qu'on peut très bien avoir des idées, des opinions de ce genre. Encore à l'heure actuelle, il y a des femmes qui sont d'extrême droite et qui sont lesbiennes. C'est pas incompatible, malheureusement. Mais je voudrais... dernièrement, là, je me suis heurtée un petit peu à une... un côté un peu excessif de ce côté-là, parce que c'est très bien, mais on dirait presque qu'on en sait plus sur celle-là que sur les autres. C'est un peu parfois cette impression-là.
Oui, enfin, moi j'ai un document, entre autres, d'une femme qui a été internée.
Oui.
Je ne sais plus si c'est à Birkenau ou Ravensbrück. Et, bon, une femme qui était épicière, vous savez, elle a fait de la résistance, elle a aidé les Juifs à passer la Loire. Elle était de Tours, donc du nord, enfin, dans la zone qui était à l'époque encore libre. Et elle a été raflée avec plusieurs dizaines de femmes. Elles avaient créé une... c'était formidable, d'ailleurs, parce qu'elles avaient créé un réseau de femmes, essentiellement, qui aidaient les Juifs à passer dans le sud. Et elle a été arrêtée. Elles sont revenues... sont quatre ou cinq à avoir survécu. Et elle a écrit sur son cahier d'écolier, à son retour, son histoire dans le camp. J'ai ce cahier. Mais c'est pareil, je ne peux pas le donner, ni rien du tout. La famille, elle a une fille.
Peut-être, sans parler d'elle, extraire quelque chose.
Oui, peut-être sans la nommer.
Sans la
enfin, il y a une scène qu'elle décrit. Alors, bon, elle décrit les conditions, etc. Elle dit comment elle a été... Je pense qu'elle était à Ravensbrück parce qu'il me semble qu'elle parle de Claude Vaillant-Couturier. Elle raconte comment les communistes, par exemple, les ont aidés. Claude Vaillant-Couturier étant médecin.
Oui.
Lorsque les femmes étaient très faibles, elle les faisait venir à l'infirmerie pour les nourrir, etc. Et les aider à survivre, si c'était possible. Mais il y a une scène dans ce cahier, un témoignage... d'un méfait commis par un capot, enfin une capot lesbienne qui est choses les plus horribles que j'ai jamais lues.
Oui, quoi. Oui, mais il y a
mais
eu.
Enfin,
des...
faut pas généraliser, mais ça a existé.
Elles ont existé, et c'était assez terrifiant. Oui,
je pourrais vous envoyer le témoignage sans qu'elle soit citée, parce que.
Voilà, oui, c'est ça. Oui, moi, il faut nous envoyer, il faut qu'on collecte des témoignages. Il y a parmi les groupes de résistance, puisque tu parles de ça, je pense aux Rochambelles, il y a les Américaines aussi. Et une des Rochambelles a dit que parmi leur groupe, mais ce n'était pas dit non plus, il y avait deux groupes de couples de lesbiennes aussi. Et on m'a envoyé quelque chose dernièrement sur aussi une... Parce que tout n'a pas été traduit, là, c'est... un texte de l'italienne Lucie De Ramo qui parle à Dachau de ce qu'il y avait deux lesbiennes qui portaient le triangle rose. Et là, il y a tout un passage. Je crois que il manque encore de traductions de livres italiens et de livres allemands en français. Et ça, il faudra qu'on les cherche. Parce que j'ai acheté des livres de Schoffmann, mais ils ne sont pas traduits en français. Donc, il faudra que quelqu'un les traduise, quoi. Il y a du travail à faire, là.
En parlant de traduction, n'hésitez pas aussi sur Internet, puisqu'en termes d'invisibilité, nos sœurs allemandes ont collecté, avec 500 euros, il y a 7 ans, elles ont fait un site Internet où elles ont pu mettre des monographies de femmes allemandes des années 30-40 et elles ont trouvé des traductrices, comme on le fait pendant la Lesbo Pride, pour traduire. Et on peut donc aller sur ce site Internet de ces Allemandes. Elles sont mobilisées pour qu'il y ait des traductions en français, en italien. Donc ça, c'est vraiment... Là, il y a quelque chose à créer de la solidarité féministe lesbienne à travers l'Europe, de pouvoir justement traduire ces sources pour qu'on puisse les partager. Les Allemandes ont commencé. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site.
Alors, puisque tu parles, Isabelle, des Allemandes, je signale que vendredi matin, dans cette même salle, dans un chapitre, dans une table ronde qui parle de... lesbienne aujourd'hui, bref, seront présentes une Allemande qui fait partie de l'Esbenring en Allemagne. Elle nous dira justement qu'elles ont commencé des recherches aussi sur ce sujet-là, sur les lesbiennes dans les camps. Donc c'est intéressant de pouvoir partager avec elle. Et sur ce que tu disais sur les techniques habiles de transmission, il y aura aussi jeudi, dans cette même salle, une séquence sur la transmission. Quels projets, quelles activités, quels objectifs communs autour de ce sujet de la transmission, avec la présence des archives de Francfort et puis la présence des archives lesbiennes de Paris. Et on parlera de ce brûlant sujet pour certains d'entre nous qui est la transmission. Mais quand on parle de la transmission, il y a la transmission verticale, mais aussi latérale, parce qu'on peut transmettre à côté et pas... entre ascendante et descendante.
Oui, mais vous trouverez sur le stand de la Lune des traductions de notre demande de renseignements. C'est traduit en anglais, en allemand, en portugais, en italien, en espagnol. Je pense qu'on a toujours eu fait des recherches françaises et moi je souhaite vraiment que ça se fasse au sens le plus large du terme. Alors, si vous avez des amis dans ces pays-là, prenez les traductions, parlez-en autour de vous. Il faut disséminer le plus possible l'information pour la collecte de renseignements.
Et puis, il y a aussi sur le blog du collectif Lesbien Lyonnais une présentation du très beau travail qu'elles ont fait de traduction des sources américaines concernant les homosexuels, hommes et femmes, qui se sont mobilisés dans les années 50-60 et notamment autour de Stonewall, et il y aura un travail qui va être fait par ce collectif sur les soldates américaines lesbiennes, voilà, donc qui ont été interrogées il y a une vingtaine d'années, et donc on va pouvoir voir les traductions grâce à elles, on les remercie, elles sont dans la salle.
Oh oui, merci.
Juste une question, est-ce qu'on pourrait avoir la référence de toutes ces sources absolument... indispensable pour nous, parce que le site des lesbiennes allemandes, moi je ne sais pas comment le trouver.
On les transmettra au CEL et puis on le mettra sur le site du CEL. Voilà.
Comme on a l'intention derrière ces rencontres, ces diverses tables rondes qui vont succéder toute la semaine, on a l'intention d'en garder les captations mais aussi de les transcrire, d'en faire des actes. Et donc soyez assez gentils pour nous envoyer les textes qu'on n'a pas encore ou les références qu'on n'a pas encore. Vous les envoyez à clf.info@yahoo.fr. Voilà. On centralise avec le CEL l'ensemble des choses et on va essayer réussir peut-être à sortir des actes de cette Euro Lesbo Pride.
Mais on le fera. Voilà. Donc, puis à bientôt et on mettra sûrement aussi
Merci
nos contacts.
Attention. Alors. Merci beaucoup.